おかしい、おかしい。
Et bien le poisson de l'air avec celle-là, ils vont.
Bonsoir, santé, la RDC fait face à plusieurs épidémies, notamment la poliomyélite et le choléra. Comment expliquer la recrudescence de ces maladies et quelle politique sanitaire mettre en place pour les éradiquer? Trois invités participent à cette émission. Dr Lokadi, secrétaire général du ministère de la Santé. Dr Lokadi, bonsoir.
Bonsoir.
Dr Kabamba Mbouéboué, médecin de l'hôpital général de Kinshasa, président national du parti politique de l'opposition Front Patriotique de la plateforme G14. Dr Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Et lui, il est en ligne, c'est professeur Emmanuel Bieille, professeur au département de l'environnement de l'université de Kinshasa et directeur général de la régie d'assainissement et travaux publics de Kinshasa. La réalisation me signale qu'il est en ligne. Professeur Bieille, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions, nous les avons comme d'habitude. Robert Kabandani de Bukavu, suivez-vous. La recrudescence de ces maladies s'explique par le manque d'hygiène au niveau de la population et le service d'hygiène au pays qui fait défaut comparativement aux années passées. Eric Kassongo de Cap Town en Afrique du Sud. Quelles sont les stratégies mises en place par le gouvernement pour lutter contre ces épidémies dans le cadre du santé, éducation et santé qui figure parmi les 5 chantiers du chef de l'État? Merci de nous suivre à travers le monde sur RadioCapi.net. Nous sommes mardi 7 décembre 2010. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les épidémies de poliomyélite et de choléra prennent de l'ampleur dans plusieurs provinces de la RDC. Plusieurs cas sont signalés à travers le pays, notamment à Kikwit au Bandundu, à Mwanda au Bakongo, à Chikapa au Kassai-Occidental et dans la ville-province de Kinshasa. Il a été aussi signalé des cas de choléra au Nord Kivu et de rougeole au Katanga. Samuel Kachak, vous êtes penché sur cette question, donnez-nous plus de détails.
Les derniers cas de poliomyélite ont été enregistrés dans le Bandundu, où l'on signale à ce jour 35 cas de paralysie flash aiguë à Kikwit, avec 15 décès en majorité des adultes. De janvier en octobre de cette année, près de 44 cas ont été signalés dans la province du Kasaï occidental, dont 32 pour le seul district sanitaire de Chikapa. À Kinshasa, on a signalé le cas d'un homme atteint de poliovirus sauvage venu de Pointe-Noire, en République du Congo. À Mwanda dans le Bas-Congo, les sources médicales ont confirmé le 30 novembre dernier un cas suspect de polio. Il s'agit d'un enfant de 5 ans qui a le membre supérieur et inférieur paralysé, signalant que ce nouveau type de poliomyélite attaque les enfants et les adultes, comme l'a confirmé le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. En ce qui concerne le choléra, au moins 260 cas avec 2 décès ont été notifiés au Nord Kivu dans la zone de santé de Kiroké il y a près de 3 semaines. À la même période, 70 cas de rougeole dans 7 décès ont été enregistrés en l'espace de 2 semaines dans la localité de Sapoué à 75 km de Lubumbashi sur la route de Kasinga au Katanga.
Merci Samuel Kachak, Dr Lokadi, secrétaire général du ministère de la Santé publique. Comment vous expliquez la reconnaissance de ces maladies?
Merci. D'abord, je crois que vous avez, quand vous étiez en train d'expliquer, vous avez parlé des problèmes de l'hygiène et de l'assainissement. Les deux maladies sont liées à ça. Et puis, je crois que c'est mieux qu'on puisse les séparer parce que il faut donner des précisions à la population qui nous écoute. D'abord, à ce qui concerne le choléra, il faut savoir que le choléra est endémique dans notre pays et ça se vit surtout à l'Est.
Docteur, excusez-moi, endémique, qu'est-ce que ça veut dire pour les auditeurs qui nous suivent en termes de ça?
Oui, ça veut dire que quand on dit endémique, que c'est un terme épidémiologique, on devait expliquer simplement que la maladie est là dans ses localités.
Donc, de façon permanente.
Oui, de façon permanente, exactement. Mais par moment, il y a des flambées épidémiques. Et donc, le nombre de cas augmente. Vous avez le nord Kivu, le sud Kivu et le nord Katanga. Et quelqu'un a parlé de nombre d'hectares. Pour cette année-ci, depuis le début de l'année, donc la première semaine à la semaine 46, nous avons 10 020 cas. C'est passé de la manière suivante. Le sud Kivu, 6912. Le Katanga, 4939. Le nord Kivu, 4169. Et avec 210 décès.
Donc, ça, c'est pour le choléra.
C'est pour le choléra.
Et la poliomyélite, quelles autres précisions, docteur, vous pouvez nous donner?
Et la poliomyélite, il faut dire qu'il y a un phénomène nouveau. Parce que concernant la poliomyélite, c'est les adultes. Parce que de tout le temps, on avait la poliomyélite chez les enfants, désolé, de moins de 5 ans jusqu'à 15 ans. Mais il se fait que depuis cette année-ci, depuis les cas qu'on a commis à Pointe-Noire, à Brazzaville, nous sommes en train d'assister à un phénomène nouveau, la poliomyélite chez les adultes. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons des cas confirmés, 73 cas, dont les cassés occidentales, 73, le Bandundu, 13, le Katanga, 4, province orientale, 1 cas, le Bakongo, 1 cas, et la ville de Kinshasa, 1 cas. Donc au total, ce sont 13 cas.
Alors docteur, mais qu'est-ce qui explique que la polio soit passée non seulement des enfants, mais atteint maintenant les adultes? Est-ce qu'on est déjà arrivé à déceler les causes?
Oui, d'abord, il faut savoir que la poliomyélite, c'est les enfants. Nous avons réalisé des projets dans ce pays depuis 2000, qu'on a commencé les campagnes de vaccination. Nous avons réalisé des progrès, nous avons fait 5 ans sans avoir un seul cas de paralysie. Mais il se fait que depuis 2007, nous avons commencé à avoir des cas de paralysie. Et ce qu'il faut signaler ici, c'est que l'intervention vaccinale est disponible, mais il se fait que les parents n'amènent pas les enfants à la vaccination. Il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés, qui échappent à ces campagnes de vaccination, qui échappent aussi à la vaccination de routine. Mais il faut savoir, à ce qui concerne la poliomyélite, les adultes, nous par exemple, nous n'avons jamais été vaccinés. À notre âge, quand j'étais jeune, on n'avait pas encore introduit cette vaccination. Et si nous étions protégés, ce n'est pas des contaminations, mais elle n'est pas suffisante. Mais curieusement, aujourd'hui, on trouve beaucoup de cas de poliomyélite chez l'adulte. Et la caractéristique est que, au lieu d'avoir des paralysies, le membre inférieur, c'est paralysie du membre supérieur avec des problèmes respiratoires qui entraînent des décès.
Alors, docteur, avant de donner la parole à docteur Kabamba, pour le choléra, vous avez cité près de 10 020 cas exactement. Ce ne sont pas des trophées, hein, docteur, il faut le dire, mais la responsabilité, elle est partagée entre la population et l'État.
Oui, les problèmes qu'il faut voir à ce qui concerne le choléra, c'est d'abord le problème de l'eau. Le problème de l'eau et le problème de l'assainissement. Donc, ça demande un investissement important pour rendre l'eau disponible à la population et d'assainir le milieu. En 2003, nous avions le choléra dans la ville de Kinshasa. Et avec les opérations de sanitation le long de la rivière du Sakutiaku, les grandes rivières de la ville, les opérations de sanitation le long du fleuve, on a réussi à éliminer complètement le choléra dans la ville. Donc, le problème, c'est le problème de l'eau, il faut rendre disponible l'eau potable, ainsi que l'hygiène et l'assainissement.
Docteur Kabamba Mbouéboué, médecin à l'hôpital général de Kinshasa, président national du parti politique de l'opposition Front Patriotique de la plateforme G14. Vous avez suivi les explications de Docteur Loukadi sur la les causes de la recrudescence de ces maladies. Quelle est votre analyse?
Bon, je crois que nous avons une approche légèrement différente de celle du secrétaire général. Vous savez, la santé, c'est le capital le plus précieux pour l'homme, et je crois que il faut y mettre en conséquence les moyens nécessaires. Quand le colonisateur était ici, je crois qu'il a eu à faire aussi des combats contre la plupart des certaines épidémies qui sont en recrudescence aujourd'hui. Vous êtes en train de parler des polio, et vous êtes en train de parler de choléra, mais je dois vous dire que la cisticoïde, je dois vous dire que le paludisme, je dois vous dire que la tuberculose, il y a plusieurs pathologies qui nous assaillent aujourd'hui. Quand le colonisateur était ici, il avait compris qu'il faut s'attaquer à la maladie selon le principe que nous avons toujours l'habitude d'évoquer en médecine en disant « mieux vaut prévenir que guérir ». Et ce principe veut qu'on mette les moyens nécessaires en vue d'éviter justement l'éclosion de la maladie. La plupart des pathologies qui nous viennent, vous allez trouver qu'il y a des vecteurs, il y a des éléments qui poussent à ce que nous puissions nous retrouver là-bas, notamment le problème de l'eau, le choléra. Mais quand on est en train de parler de choléra aujourd'hui, dans l'hôpital où je suis en train de travailler, la cisticoïde fait des dégâts terribles. Il y a beaucoup de cas de perforation intestinale, de péritonite que nous sommes obligés d'opérer pratiquement régulièrement. Mais vous vous rendez compte que le problème d'eau se pose. Donc, sans peut-être entrer dans tous les détails, je dois dire que la responsabilité est vraiment partagée. Moi, ça me fait rire un peu quand on dit que la santé, ça fait partie d'un chantier, je ne sais pas quel chantier, parce que je vis dans cette santé depuis des années, et je vis dans un hôpital, je travaille, et je n'ai pas senti, de façon fondamentale en tout cas, une volonté politique d'infléchir la courbe qui est en train de nous amener dans l'hécatombe, en fait. Donc, la responsabilité est importante au niveau des gouvernants qui doivent, ne fût-ce que là où ils peuvent intervenir, pouvoir faire quelque chose. Et à ce point de vue, moi, je crois qu'il faut dire les choses et qu'elles sont. Je ne sais pas quel est le budget dans les 7 milliards aujourd'hui qu'on nous a vanté comme étant le budget de la nation en se disant que c'est la première fois qu'on atteignait ce chiffre faramineux. J'aurais souhaité savoir quelle est la part qui a été dévolue à la santé et à l'éducation, comme un des interlocuteurs a dit, ce que vous avez dit tout à fait au début. Hein, c'est un peu la santé, c'est les parents pauvres. L'éducation, c'est un peu les parents pauvres. Moi, je plains parfois nos collègues qui sont en train de se battre avec des moyens de bord contre un problème qui devrait, en tout cas, impliquer énormément de moyens et une volonté pour que, effectivement, on évite toutes les épidémies qui nous viennent aujourd'hui. Si dans un hôpital normal de l'État, vous manquez l'alcool dénaturé, vous manquez l'alcool iodé, et quand le malade vient, vous êtes obligé de lui prescrire jusqu'aux seringues. Alors là, c'est quoi ça? Hôpital de l'État. Et cela est vrai pour tous les hôpitaux de l'État, pratiquement au niveau du pays, pas seulement dans la ville de Kinshasa.
Donc il faut dire, docteur, aussi que les hôpitaux, au lieu d'être des lieux où on recouvre la santé, par contre, on va y contracter d'autres maladies.
Oui, on peut y contracter d'autres maladies, parce qu'effectivement, quand vous regardez, moi je pose parfois la question, je me dis, quand nous sauvons certaines vies dans des conditions difficiles, je dis Dieu est congolais, parce que s'il faut être sérieux, quand on regarde, par exemple, nos salles d'opération, on regarde là, nous mettons les prématurés, les salles d'accouchement, les conditions d'asepsie qui sont là-bas sont douteuses dans les hôpitaux de l'État pour la plupart. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives privées qui ont fait des hôpitaux privés qui répondent un peu aux normes. S'il fallait être sérieux, on prend les hôpitaux de l'État, pas seulement dans la ville de Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, tout machin, on est en train de travailler dans des conditions qui sont borderline.
Le docteur, si on prenait l'aspect également assainissement, la population a une grande part de responsabilité.
Il y a une grande part de responsabilité, je n'en disconviens pas. Il y a quelques jours, ici, on parlait de la journée mondiale des toilettes. Je suivais d'ailleurs une émission sur Radio Papi qui était en train de dire c'est vraiment la catastrophe dans la République démocratique du Congo, et même ici, dans la capitale de Kinshasa. Quand on voit les toilettes dans lesquelles les gens vont, on se dit qu'il y a, et là, c'est la part des responsabilités au niveau de la population. Mais la plus grande part des responsabilités, c'est au niveau de l'État. Comment, dans la capitale, ici, vous pouvez m'expliquer qu'il y a des quartiers qui ont fait des années, des mois, sans eau de régie des eaux, dire que nous avons un grand fleuve ici à côté. Et vous vous étonnez qu'il y a beaucoup de gens qui vous font des gastro-entérites. Vous vous étonnez qu'il y a beaucoup de gens qui vous font la cisticoïde. C'est pour ça que quand vous avez donné votre liste de seulement de polio et vous me parlez de choléra. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on a mis la malaria qui tue la fièvre?
La liste n'est pas exhaustive.
Justement, où est-ce qu'on a mis la fièvre typhoïde? Où est-ce qu'on a mis la tuberculose? Où est-ce qu'on a mis, toutes ces maladies parasitaires qui tuent les enfants en bas âge? Où est-ce qu'on a mis tout ça?
Professeur Emmanuel Bier, professeur au département de l'environnement de l'université de Kinshasa et directeur général de la régie d'assainissement et travaux publics de Kinshasa, vous avez suivi les précédents interlocuteurs, il y a plutôt un problème d'hygiène et d'assainissement, professeur.
Oui, j'interviens là en tant qu'environnementaliste d'abord. J'ai suivi successivement le secrétaire général et le docteur Kabamba que je salue, que je connais très bien. En fait, le problème pour moi se résume aux conditions environnementales, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Et c'est encore beaucoup plus grave en milieu urbain ou dans notre pays, dans la ville de Kinshasa, la démographie a augmenté. En fait, il y a eu une croissance démographique accrue, de sorte que ça a été, en fait, il faut le dire, sans contrôle. Et là, je peux un peu rejoindre ce que l'un des intervenants avait dit, les conditions environnementales se sont fortement détériorées. Et en partie, c'est dû au fait au niveau social. Il faut reconnaître que le niveau social de la population a baissé énormément. Les causes sont multiples et ça mérite un débat là-dessus. Mais ces conditions étant détériorées, vous savez, quand quelqu'un se trouve dans de mauvaises conditions, il ne fait pas attention à l'hygiène, il ne fait pas attention à la salubrité, et en fait, il vit dans les déchets, il vit dans l'eau sale, il vit dans un milieu qui est insalubre. Et bon, toutes les maladies qu'on vient de citer là, pour la plupart des maladies virologiques, il faut maladies virales, pardon, c'est-à-dire c'est dû à des virus, et les virus ne sont pas des virus, ce sont des fragments d'ADN qui sont maintenus par une couche de protéines ou par d'autres cellules. Et donc, ça peut très facilement être transporté par l'un ou l'autre vecteur et se retrouver du milieu rural au milieu urbain ou vice-versa. Et donc, vous voyez que tout ça a fait l'État agissant, parce que nous n'avons pas pris nos responsabilités en main depuis des décennies. Depuis des décennies, nous n'avons pas accordé une attention particulière à l'éducation de la population. Nous n'avons pas accordé une attention particulière à la santé, parce que éducation et santé, ça va de pair. Quand vous éduquez une population, la population fera attention à son entourage, à son environnement pour que les conditions soient améliorées. Et quand les conditions sont améliorées, il y a très peu de chances qu'on n'a pas de maladie. Vous voyez, quand les gens vivent dans vous, nous sommes, ça c'est assez difficile, mais bon, là on ne peut pas vraiment dire parce que
voilà, nous avons quelques soucis avec la ligne du professeur Emmanuel Bier. Professeur, si vous nous suivez, en attendant de vous redonner la parole, prière de fermer la radio qui est à côté de vous, ça nous permettrait de mieux vous capter ici. Professeur, vous nous entendez? Vous êtes toujours avec nous? Voilà, la réalisation va tenter de retrouver le professeur Emmanuel Bier. Docteur Locadi, beaucoup de problèmes environnementaux, détérioration du social, la démographie a augmenté, la population n'est pas éduquée. Docteur Kabamba a évoqué le cas de la journée des toilettes, mais on sait qu'à Kinshasa, par exemple, quand il pleut, c'est chaque parcelle qui en profite pour libérer les fosses septiques dans la nature.
Okay, merci, mais si vous me permettez, avant d'évoluer, parce que Dr. Kabamba a parlé de quelque chose qui a attiré mon attention, l'époque coloniale.
Allez-y, je
comprends. Il a parlé du budget. Vous savez, il faut que dans ce pays, nous puissions commencer à faire le lien entre les époques. L'époque coloniale, il n'y avait jamais eu de guerre dans ce pays. Il y avait la stabilité et on pouvait. Et on avait une économie, une société florissante qui générait de moyens internes pour financer les défenses dans les secteurs sociaux. Mais il faut vous rappeler que ça fait pratiquement un quart de siècle que ce pays se trouve dans un environnement de crise.
que j'appellerais une crise chronique. Et cela, nous devons être conscients aujourd'hui, les moyens propres de l'État par rapport à cette situation ne pouvaient pas permettre de pouvoir dégager assez de ressources pour financer les secteurs sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est ce qui fait que le budget de l'État, ce budget de l'État dont on parle, le budget de l'État dans le secteur de la santé est constitué de trois ressources. D'abord, les recettes. En 87, le gouvernement décide d'allouer les recettes aux formations médicales. Et avant 87, toutes ces recettes allaient au trésor public. Aujourd'hui, Dieu seul sait, la personne qui a la maîtrise de ce que c'est pas, de ce qu'on fait de la gestion des recettes.
Surtout par le ministère de la Santé. Donc, vous êtes le secrétaire général.
Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y a que ceux qui les gèrent, qui connaissent qu'est-ce qu'on fait de ces recettes. Deuxième chose, l'aide extérieure venait en appui au gouvernement. Depuis 90, l'aide extérieure est allée dans la direction de projets avec les multiples ONG qu'on a créées. Et c'est quoi? On n'a pas la maîtrise dans le secteur. C'est facile de dire le budget de l'État, mais le budget est constitué du trésor public, l'aide extérieure et les recettes. Tant que les trois sources ne sont pas réunies, nous aurons des difficultés pour financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement.
Et dans le budget 2011, la santé a quel pourcentage?
Le problème qui est au niveau, je viens de le dire, le budget du secteur a trois sources. Les recettes...
Oui, ça vous l'avez dit, docteur, mais vous pouvez l'évaluer à combien?
Au niveau du gouvernement, il est à 5%, et nous n'avons pas comptabilisé les ressources extérieures. Parce qu'il faut mettre tout ça ensemble pour parler du budget du secteur.
Malheureusement, il y a beaucoup de suites, comme vous l'avez dit, et c'est difficile à maîtriser. Docteur Kabamba, réaction.
Non, moi je suis d'abord content que le secrétaire général reconnaisse que la part qui est en tout cas reconnue à la santé publique est tout à fait dérisoire. 5% pour la santé. Mais les raisons qu'on avance, les raisons de crise, bon, ce sont des raisons qui peuvent être comprises dans un sens, mais qui peuvent aussi être banalisées quand on voit ce pays qui est en crise. En même temps, il y a une caste de personnes qui, eux, en tout cas, vivent au-delà de toutes les possibilités acceptables et imaginables. Nous sommes du G14, je suis du camp patriotique, je sais très bien que il y a de nouveaux riches aujourd'hui dans cette crise ici. Des gens qui vous font des buildings de 10, 20 étages en 6 mois, en quelques temps, nous savons ça aussi. Moi, je veux souhaiter que la crise, quand elle nous concerne nous tous. Et ce qui est malheureux, c'est quand vous commencez à poser des questions de savoir qui sont ces gens qui vivent avec pareille opulence dans un pays en crise, c'est tel général, c'est tel ministre, c'est tel honorable. Bon, il y a aussi des hommes d'affaires qui font leur affaire de façon tout à fait honorable et respectable, je le reconnais. Mais il y a de nouveaux riches aujourd'hui. Il y a des gens que je connais avec qui j'ai été à Saint-Kitty. J'ai toujours l'habitude de dire, c'est des gens qui étaient aussi démunis que moi, qui aujourd'hui se retrouvent dans cette période de crise avec une opulence insolente. Donc, je voudrais revenir pour dire que si vous voulez une bonne santé, je crois qu'il faut y mettre les moyens. C'est bien la culture. Vous demandez à la population de pouvoir suivre. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique pour dire, voilà, nous vous donnons de l'eau propre. Nous avons un fleuve ici. On ne vit pas dans un désert. Le Congo a plein de cours d'eau. Comment est-ce que nous ne pouvons pas offrir de l'eau de qualité à la population? Comment est-ce que nous ne pouvons pas faire à l'époque le colonisateur dont il est en train de parler là-bas, même si à cette époque il y a des éléments qui diffèrent. Il faisait même la chasse aux vecteurs. Je n'ai même pas parlé de la maladie du sommeil. La maladie du sommeil est en recrudescence. Hein, il faisait des battues pour capturer les moustiques. Il y avait tout un tas de services qui viennent fonctionner, effectivement. Mais on y a mis les moyens. Si vous donnez 5% à la santé, et encore faut-il que ces 5%-là soient utilisés, effectivement, parce que à la fin, vous risquez de voir que on a mis 5%, mais on a utilisé 0,2%. Ça, je m'arrête là en attendant.
Professeur Emmanuel Bié, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui.
Merci, professeur. Vous avez premièrement parlé comme environnementaliste. Maintenant, je souhaiterais que vous puissiez parler comme directeur général de la Régie d'assainissement et travaux publics de la ville-province de Kinshasa. Professeur, dites-nous, quel est le budget qui vous est alloué pour assainir la ville de Kinshasa?
Merci pour la question. En fait, vous voulez savoir quel est le budget qui est alloué à la régie d'assainissement pour faire l'assainissement de la ville.
Effectivement.
Là, c'est une question, je dirais, assez complexe dans la mesure où les réponses vont être, en fait, réparties en plusieurs sections. Il faut d'abord reconnaître que la régie d'assainissement, c'est une régie qui émane du budget annexe de la ville. Et donc, ce n'est pas dans le vrai budget de la ville. Et vous, comme moi, savez ce que ça signifie être dans le budget annexe. Bon, mais que cela n'en tienne, l'assainissement, c'est la priorité de cette ville. Mais l'assainissement, c'est un tout, en fait. On ne peut pas vivre sans assainissement. Ça signifie que le quinoa lui-même doit s'intérioriser à travers l'éducation, à travers la sensibilisation, à travers l'information, cette notion-là. Ce qui veut dire que si nous devons faire un budget d'assainissement, ce budget va comprendre pas seulement comment on peut fournir de l'eau potable à la population, comment on peut construire les ouvrages de drainage et maintenir les ouvrages qui existent, qui sont déjà détériorés, mais aussi comment on va informer la population chinoise, et je reste à Kinshasa, comment on va informer la population chinoise. Et bon, en cette matière, j'ai suivi un peu le docteur Kabamba qui a parlé, et ce qu'il a dit, je peux résumer dans ce sens que il faudrait qu'il y ait une certaine solidarité entre nous, une solidarité dans la distribution, une solidarité dans le fait que nous sachions que si nous accordons une priorité à une matière, il faut que notre attention soit portée là-dessus et que tous les moyens qui sont destinés à ça soient réellement utilisés de façon efficace. Et bon, la ville traverse beaucoup de temps assez difficiles, dans ce sens que le budget de la ville dépend plus de la rétrocession, parce que même s'il y a des recettes propres qui sont réalisées, mais il y a plus de la rétrocession, parce que ce que la ville gagne va au trésor national, et c'est ça qui doit redescendre. Et quand ça ne se fait pas, les interventions au niveau de la ville deviennent assez difficiles aussi.
Merci, professeur. Quelle politique sanitaire mettre en place pour éradiquer ces maladies? Nous avons posé la question à Dr Richard Mukalenge, spécialiste en santé publique. On l'écoute.
Oui, pour éradiquer ces maladies, par exemple pour la rougeole, il faut que les mères libèrent les enfants pour qu'on les vaccine à temps et en suivant le calendrier vaccinal qui se trouve au niveau des centres de santé et en suivant aussi les conseils de PEVE. Pour ce qui est du choléra, par exemple, il faut que la communauté sache chlorer l'eau de boisson, au besoin, la faire bouillir. Par exemple, nos amis qui sont à Calémie, s'il n'y a pas de chlore, ils sont obligés de faire bouillir l'eau et de se laver les mains avant de s'alimenter. Pour ce qui est de la polio, il faut que la vaccination se fasse à bon escient et que les vaccinateurs fassent ça aussi avec tous les sérieux possibles. Parce que s'il n'y a pas de sérieux dans, par exemple, la conservation de vaccins, on peut donner un produit qui n'est pas actif, c'est-à-dire un vaccin qui est déjà mort.
Docteur Lokadi, je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère de la Santé. Avant de vous donner la parole, prenons cette question qui nous vient de Bukavu pour vous.
Robert Mahomet de Bukavu, au sud de Kivu. Il y a toujours moyen de lutter efficacement contre cette épidémie ou ces maladies. Cependant, comment y parvenir réellement lorsque dans les différents budgets du gouvernement, la part réservée au secteur de la santé reste encore minime?
Docteur Kabamba parlait également des moyens et de la volonté politique. Docteur, qu'est-ce que vous répondez?
Non, je crois que, à ce qui concerne le budget de l'État, c'est difficile que ceux qui ne sont pas à l'intérieur du secteur, et surtout qui ont la gestion, puissent comprendre ce que je suis en train de dire.
Tant que c'est tellement flou que c'est difficile à
comprendre. Non, il faut faire un effort pour
que les trois sources de financement soient réunies, donc les recettes, les trésors publics et l'aide extérieure.
Ça, vous l'avez dit, mais docteur, concrètement, qu'est-ce qu'il faut
c'est ça justement.
Qu'il faut pour éradiquer ces maladies? Quelle politique nationale?
D'abord, je voudrais revenir à ce que docteur Kabamba a dit pour l'eau. Il s'agit ici de l'eau potable. Nous savons que nous avons les fleuves, nous avons des rivières. Ce n'est pas l'eau potable. Il faut potentialiser l'eau. Il faut rendre l'eau potable. Et ça demande un investissement important pour rendre l'eau potable et rendre disponible à l'ensemble de 60 millions d'habitants. Alors, le problème le plus important, c'est la précarité des services d'hygiène et d'assainissement. Et je dois vous dire qu'il y a une dimension importante qu'on est en train d'oublier. La culture. Regardez l'effort qu'on est en train de faire dans la ville de Kinshasa en ce qui concerne la construction des caniveaux et des égouts. Mais regardez ce qui se passe avec la population. C'est qu'on jette les restes des débris alimentaires, tout ce qui est comme ordure. Il y a une dimension culturelle qu'on oublie. Donc, il faut vraiment lutter contre cette maladie, d'abord la sensibilisation de la population, la formation pour les bonnes pratiques. Deuxième chose, la prise en charge des cas, mais j'insiste encore, le problème de l'eau. Il faut des investissements importants pour rendre disponible l'eau.
C'est parti de cinq chantiers.
Justement, et les services d'assainissement et d'hygiène.
Docteur, si je vous comprends, il y a encore à craindre que nous soyons très loin d'éradiquer ces maladies.
Il faut agir suffisamment au niveau. Et c'est là que je dis, il faut vraiment tout un plan Marshall dans ce pays, étant donné la dégradation des services d'hygiène et d'assainissement. Il faut des moyens importants pour restaurer l'hygiène et les services d'assainissement. On va débarrasser la population de ces maladies.
Docteur Kabamba Mbouibou, je rappelle que vous êtes le médecin à l'hôpital général de Kinshasa et président national du parti politique de l'opposition Front Patriotique de la plateforme G14. Vous avez suivi les propositions du docteur Richard Mukalenge ainsi que l'intervention de docteur Lokadi. Que faut-il pour vous pour éradiquer ces maladies? Vous parliez déjà des moyens de la volonté politique.
Tout à fait, j'y vais de façon tout à fait systématique, de façon que ce soit tout à fait clair. Un, il faut une volonté politique réelle, pas des slogans creux, appeler ça chantier pour se faire plaisir, non. La santé, nous voulons nous en occuper et nous y mettons des moyens conséquents, c'est la première des choses. Et les différents gestionnaires de cette santé, là où les moyens doivent passer, ça va être des gens contrôlés, qu'il n'y ait pas d'impunité. Quand on se rend compte qu'il y a un détournement quelconque, quel que soit le niveau, ils doivent être sanctionnés. Deuxième élément important. Troisième élément important. Dès qu'on va donner les moyens, il faut que l'infrastructure hospitalière des hôpitaux de l'État, mais plus que ça, parce que les gens commencent à fuir les hôpitaux de l'État, les infrastructures des hôpitaux de l'État doivent cesser d'être vétustes parce qu'ils doivent se mettre au diapason de la plupart de ce que nous avons comme hôpital aujourd'hui. Quand les gens quittent, par exemple, même l'Afrique du Nord, et ils viennent ici chez nous pour se faire soigner, et ils se posent la question dans quel enfer ils sont tombés. Trois, il n'y a pas que l'infrastructure. La rémunération des personnels, de façon générale. Les médecins, il n'y a pas longtemps que les médecins étaient en grève. Mais il n'y a pas que les médecins dans un hôpital. Il y a aussi des infirmiers, il y a aussi des administratifs qui sont des collaborateurs de médecins et qui travaillent pour le même but, qui est le but de pouvoir sauver le malade. Le médecin joue le rôle de chef d'équipe, mais ce n'est pas le médecin qui fait tout. Donc, il faut motiver le personnel. Aujourd'hui, vous avez peut-être le médecin qui était en grève, qui est revenu, qui attend d'ailleurs. Et il y a d'autres catégories socioprofessionnelles
qui n'ont que suspendu la grève.
Et qui n'ont que suspendu la grève, donc qui pourraient reprendre, parce que toutes les promesses qui ont été faites n'ont pas encore été concrétisées. De toute façon, je ne suis pas syndicaliste ici, je parle au nom de tout. Et enfin, quatrième élément important, les médias. Je crois que là, j'ai rejoint un peu le secrétaire général dans la culture et l'éducation. Je pense que le média est important et j'ai dit au professeur environnementaliste qui est en train de nous suivre, que je salue aussi au passage, que je suis tout à fait d'accord avec lui
ce problème ne se limite pas qu'au secteur médical, hôpital et tout machin. Il est environnemental, dans lequel la chasse aux moustiques, la chasse à tout ce qu'il y a comme vecteur de toutes les pathologies que nous avons pu se faire. Donc, j'insiste et je résume pour dire, un, il faut une volonté politique, deux, il faut des moyens, trois, il faut que l'impunité cesse dans les domaines de la santé, quatre, il faut que la culture, donc sous le plan de l'éducation de la population, que les médias nous aident à pouvoir faire le travail qu'il faut. Voilà un peu.
Professeur Emmanuel Biais, je rappelle que vous êtes professeur au département de l'environnement de l'université de Kinshasa et directeur général de la régie d'assainissement et travaux publics de la ville-province de Kinshasa. Professeur, avant de vous donner la parole, prenons cette question qui nous vient de Kananga au Kassai occidental pour vous.
Adrien Ilobakwei Ferro à Kananga, au Kasaï occidental. Je pense que la recrudescence de toutes ces maladies est la résultante de ce que nous avons semé. La solution à tout cela est d'augmenter le frais dans la rubrique de la santé dans le budget de l'État.
Professeur Emmanuel Biais, encore et toujours le budget.
Oui, encore et toujours le budget. Oui, c'est vrai. Bon. Notre ami appelle de Kananga, je ne sais pas quelle est la situation budgétaire au niveau de la province du Kasaï, mais je devrais dire qu'en ce qui concerne la ville de Kinshasa, du point de vue des travaux publics, le ministère du plan et du budget s'attelle, j'ai encore discuté avec le ministre tout à l'heure, sur le projet justement de réhabilitation de tout le réseau hydraulique, c'est-à-dire le curage des rivières, de toutes les rivières de la ville, le curage de tous les caniveaux et collecteurs, ainsi que la réhabilitation des ouvrages qui sont déjà détériorés. C'est un vaste programme, c'est un vaste programme qui doit être discuté le jeudi au Conseil des ministres et qui doit démarrer au début de l'année prochaine. Donc, de ce côté-là, le gouvernement provincial s'y met et donc comprend que la situation environnementale au niveau de la ville s'est détériorée et que les travaux publics doivent faire du boulot pour que les conditions du milieu, les conditions de l'environnement puissent être améliorées. Et je pense que quand les conditions sont améliorées, c'est la population qui en pâtit. Et je sais que c'est le souci majeur du ministre du plan, c'est le souci majeur du gouverneur de la ville. Et donc, nous efforçons, nous mettons du poids pour que ce programme réussisse.
Professeur, vous parlez du curage des caniveaux et collecteurs, mais comment cette ville sera-t-elle finalement très bien assainie du moment que la population n'a pas des lieux d'évacuation des immondices, c'est plutôt dans les cours d'eau
Justement, je vais ajouter que le programme de curage est accompagné d'une politique de sensibilisation de la population et d'une mise en place des stations de transit dans presque tous les quartiers, là où l'Union européenne n'intervient pas, de sorte que la population n'oriente plus les déchets vers les rivières, n'oriente plus les déchets vers les caniveaux, mais plutôt vers les lieux qui leur seront désignés. Et c'est tout ce programme-là qui est déjà sur la table du ministre provincial du plan et des travaux publics.
Merci, professeur. Docteur Lokadi, il y a des auditeurs qui nous écrivent, qui s'adressent à vous, notamment Jackson Kiyembi de Kinshasa. Monsieur le secrétaire général, jadis la lutte contre l'épidémie de polio était plus centrée sur les enfants, mais maintenant l'épidémie est en train d'attaquer les adultes. Quelles sont les stratégies que votre ministère a mises sur pied pour lutter contre cette épidémie? Est-ce qu'il y aura un vaccin anti-polio pour les adultes avec le programme élargi de vaccination PEV? Il y a Jérémy Kiambou de Kenyabayo au Nord Kivu. Comment peut-on comprendre que le vaccin contre la polio qui n'impliquait que les enfants aujourd'hui devienne pour les adultes? Gouverner, c'est prévoir. Que dit ou envisage notre gouvernement face à toutes ces épidémies si dangereuses? Permettez que j'ajoute cette réaction de Vema Wabelo de Matadio Bakongo. Cette situation ne reflète que l'image du pays où la vie du Congolais ne représente plus rien pour les gouvernants qui n'a jamais considéré le social de celui-ci comme prioritaire. Je pense que la seule solution ou alternative est de mettre en place des nouveaux dirigeants qui auraient comme priorité le social des Congolais, docteur Lokadi.
Merci. Vous avez posé la question par rapport à la poliomyélite et les adultes.
Est-ce qu'il y aura un vaccin pour les adultes?
C'est le même vaccin qu'on va utiliser chez les adultes, sauf que la quantité. Nous avons fait un plan, un scénario. Comme nous avons la polio dans la ville de Kinshasa, nous avons le Bandundu, nous avons le Katanga, le Bakongo, dans la province de Kinshasa. Pour la première phase, nous serons obligés de vacciner la ville de Kinshasa. Le Bakongo, on l'a déjà fait. On va vacciner la ville de Kinshasa, le Bandundu, le Kasaï orienté, une partie de l'Équateur.
Ça va commencer
ça,
quand?
Ça demande 21 millions de dollars pour faire ça. Et je crois que le samedi, sous la présidence du Premier ministre, il y a une grande réunion à ce sujet pour la réunion de mobilisation de ressources pour permettre de lancer cette opération de vaccination des adultes.
Merci docteur. Docteur Kabamba, il y a docteur Anovel de Lumbasho Katanga qui dit « Pour que les différentes campagnes de vaccination atteignent leur objectif, il faut un peu plus de transparence et d'ordre, surtout en ce qui concerne le recrutement, la motivation et le contrôle des vaccinateurs. Figurez-vous que dans la ville de Lumbashi, il y a des quartiers où on n'a pas vu un seul vaccinateur depuis les dernières journées de vaccination. Imaginez la suite dans l'arrière-pays et surtout dans les zones difficiles d'accès, entre parenthèses, territoires contrôlés par les groupes armés, docteur.
Je suis tout à fait d'accord avec lui parce que, je disais tout à l'heure ici, il y a un problème d'impunité. Chaque fois qu'il y a ces mobilisations importantes sur le plan financier, parce que les vaccinateurs, là, ceux qui doivent se déplacer, il y a des fonds, il y a des perdiennes, il y a tout un tas d'histoires, il y a des fonds. Donc je reviens encore, je souligne le fait qu'il faut beaucoup de moyens pour réaliser tout ça. Et vous verrez que tous les débats que nous faisons, nous revenons toujours au nerf de la guerre et l'argent. Donc, je suis d'accord avec le docteur qui a dit ce qu'il a dit là-bas, effectivement. Qu'est-ce qui se passe effectivement dans les localités, les coins les plus reculés qui ont été mobilisés à cette fin-là? C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'une des solutions, quand vous confiez des responsabilités à des gens, vous leur donnez un fonds à gérer, il faut qu'il y ait un feedback de façon que si on se rend compte qu'il y a eu des tournements, que ces personnes-là puissent être sanctionnées.
Merci, docteur. Et il va falloir conclure dans moins d'une minute. Je vous en prie un mot en guise de conclusion.
Non, la conclusion, je n'irai pas loin. Je vais dire, écoutez, la santé, c'est un problème de volonté politique. Il faut y mettre les moyens. Il faut avoir des dirigeants qui ne soient pas au-dessus de la loi, qu'on peut sanctionner quand on se rend compte que ça ne va pas. Que les médias nous aident. Et que la population participe, je crois qu'on va résoudre tous les problèmes que nous avons.
Merci, docteur Kabamba. Professeur Emmanuel Bieille, votre conclusion également.
Je crois que nous avons suivi durant tout ce temps toute la problématique justement de la santé publique et de l'impact environnemental sur la santé publique. Et donc, ce problème doit être vu de façon globale. Et la responsabilité, au fait, nous revient à nous tous, nous, que ce soit le docteur Kabamba, mon ami, que moi, que le chef de district ou le gouverneur de la ville.
Merci, professeur. Merci, professeur, docteur Lokadi.
Voilà. Comme conclusion, je crois que ce qui est encourageant est que nous avons un plan national de développement sanitaire pour 2011-2015.
Qui fonctionne quand même.
Justement, 2011-2015, très prochainement, nous allons avoir une réunion de mobilisation des ressources et il faut insister que la lutte contre la maladie,
Merci, docteur. Merci, docteur. Excusez-moi de vous couper par là. Dialogue entre Congolais, c'est terminé. Merci à vous qui avez été des millions à nous suivre. Bonne soirée. Okay.